Bonsoir à tous et bienvenue à ce tout nouveau podcast de Triple Option, votre destination préférée pour connaître tout ce qui se passe dans le monde du college football américain. Après une semaine forte en émotion pour notre podcast, mais aussi pour les différents matchs qu'il y a eu la fin de semaine passée, on peut maintenant officiellement dire que le mois de septembre est derrière nous. En d'autres mots, le tiers de la saison est maintenant terminé. Encore une fois cette semaine, on a le droit à plusieurs matchs de qualité. Et la semaine 6 s'annonce tout aussi intrigante. Moins de gros match-up avec des équipes rankées, on va en parler un petit peu plus tard, mais quand même des choses assez intrigantes qu'on pourra se mettre sous la dent. Avant de tomber dans le vif du sujet, veuillez accueillir le gars le plus sexy que je n'ai jamais vu de ma vie. Wallet, mon vieux, comment ça va, man?
Ça va bien. Écoute, pour ceux qui le savent pas encore, c'est moi qui fais le pacing, puis je le sais que Faf lit pas tout le temps l'introduction parce qu'il me fait confiance, puis des fois, ben, j'en profite pour mettre des phrases comme ça.
Puis je l'ai laissé tel quel.
Ça a été une grosse semaine pour nous autres. Comme moi et Pascal, on se disait avant d'enregistrer, c'était assez incroyable de premièrement se voir en personne, mais deuxièmement, comme d'enregistrer dans un studio professionnel, là, on retombe dans nos petites chambres à part, nos sous-sols ou chambres d'amis. C'est un peu différent, mais écoute, Faf, c'est un gars que j'ai rencontré une fois, puis je le considère comme un ami de longue date maintenant, parce que je l'ai finalement vu. Puis écoute, c'est triste parce qu'on ne se voit pas souvent, mais qu'est-ce qui est encore plus triste, Faf, c'est qu'on a déjà le tiers de la saison de fête, puis ça, c'est plate, parce que ça veut dire que les choses vont achever un jour. Puis... Mais l'avantage dans tout ça, c'est qu'il y a eu des belles histoires en septembre, il y a eu des histoires un peu plus... peut-être un peu qui ont été prises hors du contrôle, un peu à l'image de la saison de Colorado jusqu'à maintenant, mais c'est vraiment à partir d'octobre que les gars qui méritent d'être les meilleurs joueurs au pays, le récipiendaire du Heisman, les équipes qui doivent se démarquer du lot, c'est vraiment à partir d'octobre que l'on sépare, comme le veut l'expression, les hommes des enfants. Puis je suis excité de voir ça. Puis je pense que, malgré le fait, comme tu as dit, qu'on n'a pas une semaine quand on regarde les matchs hyper intrigante en termes de match-up entre des équipes rankées. Je pense qu'on a une semaine qui est sneaky good, comme qu'on dirait en anglais. Puis je pense qu'on va avoir un bon show pour vous ce soir.
Évidemment, qui met en vedette le Red River Rivalry cette semaine. On en parle un petit peu plus tard. On va commencer ça avec le recap de la semaine passée dans la NCAA. Yes, donc retour sur la semaine 5 de la NCAA. Wallet, tu l'avais callé, l'upset, c'est presque arrivé, ça aurait été si beau. Malheureusement, on n'a pas eu droit au plus gros upset de l'année. Parle-moi du match, Georgia, premier au pays, qui allait rendre visite à Auburn. Tu l'as dit, Auburn, c'est un environnement qui est très hostile. Georgia se sont poussés avec la victoire 27 à 20, mais ça n'a pas été l'histoire du match.
Non, effectivement, puis dans ce match-là, ce que je retiens surtout, on l'avait un petit peu dit la semaine dernière là, quand on parlait des matchs à suivre, Georgia, depuis le début de la saison, ont tendance à être très, très soft dans leur début de match, puis c'est ça qui est arrivé. On a vu Auburn sortir fort, on a vu Auburn mettre des points au tableau, puis Auburn ont mené pour la majorité de ce match-là. Une chose qu'il faut prendre en considération du côté de Georgia, malgré le fait qu'on se dit, ah, OK, ils sont premiers au pays puis ils ont été shaky, il faut se rappeler que leur carrière partant, Carson Beck, c'était son premier départ sur la route. Fait qu'on parle quand même d'une expérience qui est difficile, considérant que le gars jouait au secondaire l'année dernière. Puis c'est un environnement, comme qu'on répète, qui est extrêmement hostile. Mais au final, il fait quand même bien 313 verges, qui n'est pas exceptionnel, mais qui est assez bon. Un touché, une interception. C'est pas des stats là, qui veulent tout dire, mais c'est assez pour remporter la victoire. Ce que j'en tiens surtout, c'est le fait qu'il était en mesure de se replacer en fin de match. C'était 20 à 20 avec quelques minutes à faire, puis il a été en mesure de connecter avec le seul et unique Brock Bowers, qui est, selon moi, on va en parler tantôt, le meilleur joueur au pays, toutes positions confondues, malgré le fait qu'on ait des gars comme Caleb Williams. Brock Bowers est juste tellement dominant à sa position que selon moi, c'est lui le meilleur joueur au pays, malgré le fait qu'il ne joue pas une position qui est aussi importante que corps arrière. Bauer, dans son cas, termine le match avec 8 réceptions, 157 verges, puis un touché. C'est assez incroyable comme statistique. Il me fait un peu penser à Kyle Pitts lors de sa grosse saison à Florida il y a de ça 3 ans, en espérant que son passage NFL va être un petit peu plus glorieux que celui de Kyle Pitts. Puis finalement, la défense de AGA, ou UGA, comme qu'on aime dire, elle n'a rien de spécial. Elle n'est pas au standard de ce que Georgia nous ont habitué dans les dernières années, mais ça reste probablement une des 10 meilleures défensives au pays. Puis je connais une équipe que j'aime personnellement, qu'avec une défensive comme celle de Georgia, pourrait être plus capable. Faut que je remette un ballon du match en défensive à Samuel Mondon Jr. qui connaît un fort match. Le linebacker termine ce match avec 11 plaqués pour un sac puis 2 plaqués pour des pertes. Du côté d'Auburn, ils nous montrent des belles choses, spécialement en offensive au niveau de leur attaque au sol qui est variée. Auburn est vraiment sur une pente, selon moi, ascendante pour les prochaines saisons. Leur nouveau coach, j'ai un blanc de mémoire sous son nom, mais le coach de Auburn, qui est l'ancien coach de Liberty puis l'ancien coach de Ole Miss, est un bon recruteur, c'est un bon développeur de corps arrière. Puis j'ai l'impression que Auburn, ça va être une équipe à prendre au sérieux.
You freeze,
exact. Ça va être une équipe à prendre au sérieux dans les prochaines saisons. Puis ça sera jamais facile d'aller gagner sur la route pour les équipes qui visitent Auburn.
Yes. J'avais bien hâte de voir de quelle sorte de lendemain de veille Colorado allait avoir après leur cuisante défaite contre Oregon la semaine précédente. Ils sont revenus de façon assez surprenante, surtout dans la deuxième demi, mais dans la défaite. Donc, USC remporte la victoire au Colorado par la marque de 48-41. Évidemment, ça a été un match qui n'a pas été joué de cette façon-là. Ça n'a pas été ça tout le long du match. Donc, USC ont commencé très fort à leur image. Le côté offensif a bien roulé. Donc, à un certain moment dans le match, c'était 21-0. Colorado a finalement donné signe de vie avec un long touché. Puis, en fait, un sacré beau sac du corps contre Caleb Williams. Ça a été assez impressionnant. Ils l'ont dévissé en bon français. Donc, au début, Shedeur Sanders n'était pas du tout dans sa game. Son niveau de complétion n'était pas là. Ses receveurs l'ont vraiment laissé tomber. À un certain moment, là, il avait complété là, moins du tiers de ses passes, plus une interception. Il n'avait rien montré de flashy, il n'avait rien montré de super impressionnant. Ce qui fait en sorte qu'à la mi-temps, c'était 34-7 pour USC. On s'était dit, bon, ça y est, Colorado vont nous répéter ce qu'ils ont eu la semaine passée, vont nous répéter ce qui s'est passé contre Oregon. Et non, en deuxième demi, en fait, il y a une note que je m'étais pris là, c'est qu'à la mi-temps, quand c'était 34-7, le Buffalo était outscore 70-20 en 6 quarts. Donc, le match précédent plus de la première demi, c'était 76-20. Donc, on voyait que la défensive n'était pas là, on voyait que la défensive n'était pas au rendez-vous du tout, surtout contre une puissante offensive contre celle de USC. On s'est rendu compte, par contre, qu'en deuxième demi, ben USC ont laissé leur défensive dans le vestiaire parce que ils ont réussi à scorer 27 points en deuxième demi, Colorado, en accordant seulement 14 points à USC, surtout quatrième quart, aucun touché fait par USC, pardon. Au final, ça a été une bataille de corps arrière. Évidemment, Caleb Williams est sorti gagnant de cela. On a vu un beau comparatif à savoir pourquoi Shedeur Sanders serait potentiellement pas un candidat au Heisman, ou s'il était candidat, il n'allait pas se retrouver avec le trophée entre les mains. Caleb Williams a fini la journée 30-40, 400 verges, plus de 400 verges, c'est énorme. 6 passes de toucher, c'est exceptionnel. Une petite interception, moyenne de 10 verges par passe complétée, c'est assez impressionnant. Du côté de Sanders, 30-45, pas vilain, 371 verges, pas vilain, 4 passes de toucher, très bon, 1 interception. Donc, au final, ce qui a fait la différence, c'est le nombre de verges que Caleb Williams a réussi à compléter, le nombre de passes de toucher qu'il a réussi à lancer. Donc, au complet, c'est ça qui a fait la grosse différence dans le match. Au niveau de la course au sol, pour la première fois de l'année, Colorado ont réussi à bien courir. C'est là qu'on a vu qu'en deuxième demi, la défensive de USC n'était plus du tout là. Donc, ils ont cumulé presque 200 verges par la course. C'est la première fois depuis le début de l'année qu'ils ont réussi à avoir autant de verges par la course. Par contre, Sanders il a encore été souvent pressé dans sa pochette, a été saqué à quelques occasions, donc un gros sac quand même assez violent à un moment donné. Donc USC ont commis 3 sacs du corps pendant ce match-là. Donc, À la fin de la journée, ce qu'on a vu, c'est que un takeaway que j'ai lu qui était assez intéressant, c'est de dire, ben, on peut pas croire que USC ont accordé 41 points à l'équipe qui en avait scoré seulement 6 à Oregon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que USC et Oregon jouent les deux dans la Pac-12, vont être inévitablement des adversaires un moment donné, l'avant-dernière semaine, je pense, de la saison. Donc, ça met la table à savoir ça va être qui la meilleure équipe à ce niveau-là, puis est-ce que la défensive va changer ce genre de match-là. J'ai hâte de voir la suite pour USC contre Oregon plus tard. Je comprends que la règle de trop ne peut pas s'appliquer dans la NCAA, sauf que je peux comprendre une chose, quand je vois une défensive qui est à chier, je la vois puis je l'acknowledge, puis USC était vraiment chier en deuxième demi de ce match-là. C'était assez triste, évidemment. On a Mathieu dans le chat qui dit qu'il est tellement déçu de mes Trojans, donc on vient de comprendre que USC, c'était son équipe. Caleb sera à New York pour la cérémonie du Heisman, mais l'équipe va finir avec au minimum 2 défaites. 2 défaites, je trouve ça très conservateur de ta part, mais je suis d'accord que cette équipe-là, Caleb, il a lancé 6 passes de toucher. Là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est Caleb's Against the World rendu là. C'est vraiment lui qui est l'équipe, c'est lui qui fait l'équipe, c'est lui qui drive cette équipe-là.
Ouais, je pense que Lincoln Riley s'est dit, moi, je m'en crisse la défensive. Il m'a gagné mes matchs en mettant 65 points au tableau, ça me dérange pas.
Exact. 400 verges par la passe. Du côté de USC, pardon, on en a parlé beaucoup depuis le début de la saison. Taij Washington, 8 réceptions pour 117 verges. Assez impressionnant. Par contre, il s'est fait outstagé complètement par Omarion Miller du côté de Colorado. 7 réceptions pour 196 verges, dont un long touché de 65 verges. Donc, ça a été vraiment un duel au niveau des airs dans ce cas-ci. Les deux défensives n'ont pas tant répondu présent, très honnêtement. Donc, ça a fini par la marque de 48 à 41. Wallet, tu m'avais dit que la défensive de LSU était un problème pour eux, allait être un problème à court, moyen ou long terme, mais je savais pas que ça serait aussi triste que ça. Ole Miss, 20e au pays, ont upset les Tigers de LSU. 13e au pays par la marque de 55 à 49. C'est pire que USC, ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben avant de parler du match, Faf, la chose que je peux dire, là, après 5 semaines, quoi, 4, LSU, ils ont quoi? 5 semaines de jouer, 6 semaines de jouer. Ils sont 3 et 2. LSU avec une défensive moyenne. Je parle pas. Bonne, élite, moyenne, ouais. Moyenne. Mettons, 50e au pays, avec l'offensive qu'ils ont, c'est une équipe qui peut remporter le championnat national. Rien de moins. Là, ils ont la défensive, c'est une des pires au pays. Non seulement c'est une des pires au pays, c'est une des pires de l'histoire de l'école. En termes de statistiques, Faf, la pire de l'histoire de LSU, c'était en 2020, la fameuse année COVID. Puis on s'est dit, avec coach Brian Kelly, ça sera jamais aussi pire, mais moi, je pense que c'est parti pour être pire. J'ai rarement vu LSU aussi mauvais en défensive puis aussi bon en offensive, ce qui est vraiment intéressant. Ceci étant dit, perdre un match comme celui de la semaine 1 contre Florida State, c'est frustrant, mais au milieu du troisième quart, on savait que le match était fini, mais perdre de façon crève-cœur contre Ole Miss comme ça, c'est déchirant. Enfin, je n'aurais pas de cachette là, quand Brian Kelly a envoyé sa défensive avec environ 2 minutes à faire au match puis qu'il menait, j'ai dit « Pourquoi que tu viennes de dégager sur un 4e et 5? Tu aurais juste dû y aller parce que ta défensive, elle n'arrête à rien. Prends une chance avec Jaden Daniels. » Mais il y a une raison pour que Coach Kelly ait payé 9,5 millions par année pour coacher du football puis que moi, j'en parle en bobette sur mon divan. Mais leur défensive est terrible. Pour ce qui est d'Ole Miss, on va parler d'eux parce que c'est eux qui ont vraiment volé le spectacle. Une rare statistique, ils ont mis 300 verges au sol, 300 verges aériennes et plus dans les deux cas, ce qui est assez exceptionnel. Là, ça montre à quel point que leur offensive est variée et que Lane Kiffin est capable de bien runner une offensive. Jackson Dart, leur corps arrière partant, semble enfin avoir trouvé ses airs d'aller, joue à la hauteur des attentes. On parle des statistiques intéressantes, de près de 400 verges puis 4 touchés. C'est assez exceptionnel quand tu considères que c'était contre LSU, mais comme que je leur défensive est tellement pas manqué. Anyway, tout ça pour dire que dans la victoire aussi, Quinshon Judkins, qui est leur porteur de ballon tout étoile, il avait été silencieux depuis le début de la saison, mais il a sorti enfin un gros match avec 177 verges puis un majeur de son côté. Puis, chapeau à Trey Harris puis Jordan Watkins, qui sont deux receveurs qui, de leur côté, ont capté plus de 100 verges, puis un touché chacun. Comme je t'ai dit tantôt, l'offensive de LSU est tout simplement hallucinante. Honnêtement, ce que quand on a recruté Jaden Daniels il y a de ça 2 ans, j'étais un peu sceptique, puis j'étais un peu sans mots. Le gars, il est extrêmement talentueux. Je pense pas que ça va être un gros joueur NFL, mais c'est ton joueur typique college football qui va avoir du talent. Le gars est capable de courir, capable de lancer des ballons. Encore une fois, cette semaine, le duo de Brian Thomas et Malik Nabor a été étourdissant. Les deux gars ont capté pour plus de 100 verges en seulement 8 réceptions chacun. Thomas a été la cible de choix pour Jaden Daniels avec 3 visites dans la zone payante. Puis du côté de Jaden Daniels, on parle de plus de 515 verges totales en offensive, ce qui est c'est exceptionnel là, quand tu es capable de mettre plus de 500 verges au tableau. Mais la défensive, je suis un peu sans mots. Puis je m'étais mis une question. Je te pose la question. Je pose la question dans le chat. Ceux qui nous écoutent en audio, je pose la question. J'écoutais un podcast sportif la semaine dernière. Puis un des animateurs posait la question. Tu peux pas avoir les deux. Tu as le choix entre un ou l'autre. Ton équipe favorite, que ce soit la NFL, que ce soit le college football, avoir une offensive toute élite à l'image de LSU en 2019 avec Joe Burrow, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, Clyde Edwards-Helaire, une ligne offensive plus que capable, ou tu as une offensive poche, mais tu as une défensive qui est complètement shut down, qui shut down tout à l'image des Ravens des belles années quand que tu le savais qu'une passe qui était lancée à 10 à 15 verges au centre du terrain, le gars se faisait geler par Ed Reed, puis les porteurs de ballon passaient de nulle part avec Haloti, Ngata, puis Ray Lewis. Qu'est-ce que t'aimes mieux? Moi, je pense que l'offensive, c'est le plus excitant, mais la défensive qui est à chier, c'est vraiment, vraiment frustrant en ce qui me concerne.
Je pense que l'enjeu le plus difficile, là, c'est surtout... Le problème quand tu as une offensive qui te met 55 points au tableau, là, c'est que ton offensive, là, elle va scorer terriblement rapidement dans un match. Donc, pour être capable de mettre 70 points dans une game, il faut que tu fasses des drives très courtes, il faut que tu scores à toutes tes drives. Donc, à la fin de la journée, ce qui va se passer, c'est que non seulement ta défensive, elle ne sera pas élite, mais en plus, elle va être surtaxée parce qu'elle va passer beaucoup plus de temps sur le terrain à essayer d'arrêter l'autre, l'équipe adverse. Je comprends qu'une fois que c'est une course au point puis que toi, tu scores des points à l'infini, il faut que l'autre équipe aussi fasse des gros jeux puis ils ne pourront pas driver le terrain en bonne et due forme. Ça reste qu'à la fin de la journée, dans balance, si tu te fais outscore pour une raison, « Hey, mon offensive est exceptionnelle, je réussis à marquer 55 points dans une game. » Sauf que... ou 48 points, 49 points dans le cas de LSU, mais tu t'en fais scorer 55, ben rendu là, ça t'aura rien servi de scorer autant de points. Fait que l'adage qui dit que defense wins championship, à l'époque, j'y croyais pas. Je me disais que la meilleure défensive, c'était une bonne attaque. Par contre, il faut que ça soit une attaque qui soit méthodique. Fait que pour moi, avoir une attaque élite, c'est pas nécessairement une attaque qui est capable de mettre 49 points au tableau. C'est une attaque qui va être capable d'en mettre 21, mais qui va être capable de gruger 39 minutes au cadran total à la fin de la game. Donc, j'ai une attaque qui a juste scoré 3 fois. Peut-être avec un field goal là-dedans, ça me fait 24 points. Sauf qu'à la fin de la journée, j'ai pris 40 minutes au temps du tableau. Fait que ma défensive qui est pas bonne, je vais avoir été capable de la réserver, de pas en abuser, de pas en demander trop de eux. Soyez sur le terrain, bend but don't break, là, comme accorder des jeux, ouais. Accorder des field goals, on va gagner ça.
Faites-vous pas défoncer 24 à 3 jeux, 75.
C'est ça. 24 à 13, 24 à 16, quelque chose de même, là, on va driver ça. Fait que je pense que c'est plus la défensive élite, ça dépend ce que tu veux comme caractéristique de ta défensive, de ton offensive, excuse-moi, élite. Puis je pense qu'une offensive élite, à rendre un certain niveau, ben c'est pas une offensive qui score des points à plus finir. C'est une offensive qui est capable d'être méthodique, qui est capable de convertir des gros troisième jeux, qui est capable d'étirer ses drives au terme du temps passé sur le terrain. Mais c'est effectivement une bonne question. On va lancer ça dans le chat. Il y a Mathieu qui t'a posé une question, puis j'aimerais ça t'entendre y répondre au niveau de LSU. Il dit « Pourtant, la défensive de LSU a peut-être le meilleur joueur défensif de la NCAA en Perkins Jr. » Est-ce que c'est parce que Perkins Jr. déçoit cette année ou c'est juste qu'un joueur fait pas une défensive?
Écoute, on a un segment qu'on fait un recap du premier mois d'environ 10 à 15 minutes. J'en parle un peu plus en détail.
C'est bon, j'aime ça. Donc, j'espère que ça répond à ta question à savoir qu'est-ce que je préfère avoir, une défense all elite ou une défensive qui shut down tout. Honnêtement, si je pour choisir la défense all elite, mais c'est une offensive qui va être méthodique, qui va gruger du temps versus celle qui va scorer pour 100 points par match. Quand on y pense, c'est quand même assez incroyable de dire que Dukes était impliqué dans l'un des matchs de football les plus fous de la semaine. Malheureusement pour eux, ça s'est terminé dans une défaite. Ça a été un match. Le match est à l'histoire du score final à peu près. Donc ça a fini 21 à 14 pour Notre-Dame qui allait visiter les Blue Devils de Duke. Duke qui surprenait depuis le début de l'année 4-0. Notre-Dame était 4-1 au moment de débuter le match. Ça n'a pas été un festival offensif. Ça n'a pas été une game de QB. Quoique Riley Leonard a quand même couru pour 88 verges, étant le meilleur porteur de ballon de son équipe. Malheureusement, Duke ont excessivement manqué d'opportunisme. On en parlait tantôt, l'important d'avoir des longs drives. Il y avait des longs drives, ils arrivaient dans le red zone, ils arrivaient à la fin du terrain. Ils ont manqué deux field goals dans les premières possessions qu'ils ont eues en première demi. Ce qui a fait qu'ils sont retrouvés ça par la marque de 10-0, alors que ça aurait dû être 10-6. Ça leur a excessivement changer les choses. Je suis prête même à dire que le botteur leur a coûté la game à ce niveau-là. On a vu du côté offensif que les Blue Devils étaient limités. Par contre, défensivement, leur défensive les a gardés dans le match. Donc, ça bande un peu sur la question que tu avais tantôt. C'est vraiment la défensive dans ce cas-ci qui ont réussi à shut down Esteem, le porteur de ballon. Un Christy gros porteur du côté de Notre-Dame, 5 pieds 11, 227 livres d'amour, qui a été limité à 42 verges totales pendant 59 minutes et 29 secondes du match. Il a été limité à 42 verges seulement. Leur défensive, malheureusement, du côté de Duke, ils ont manqué de jus juste à la dernière drive. Il leur manquait un stop pour gagner la game. Il leur manquait un gros quatrième essai. Il restait 51 secondes à faire. Notre-Dame était en quatrième et 16. Hartman a réussi à courir pour aller convertir le premier jeu. Suivant ça, ils ont voulu juste courir le ballon pour positionner le ballon pour faire le field goal parce qu'à l'époque, il perdait seulement un point. Puis c'est là que Esteem a décampé sur 30 verges pour aller marquer un toucher. Donc, a fini la game avec presque 100 verges. Je l'ai là. 81 verges, c'est précisément. Puis deux touchés à ce moment-là. Ça a été une bataille de grands et de très gros porteurs de ballon. C'est la première fois que je voyais en action Jordan Waters, le porteur de ballon qui a été le plus souvent utilisé pour Duke, qui a couru pour 45 verges totales et un touché. Un grand bonhomme de 6 pieds, 219 livres. Courait quand même bien, courait de façon dynamique. Du côté de Esteem, faisait penser à Fournette, en fait. Esteem, il est assez grand, assez costaud, assez solide. Donc, il me faisait penser à ça. Ce qui m'a le plus surpris dans ce match-là, c'est que Notre-Dame, qui était favori pour ce match-là, au début du match, au premier quart, 4e et 4, en territoire défensif, ont décidé d'y aller avec un fake punt. 4e et 4, ils ont couru ça, ils ont fait une formation débalancée, un direct snap au gant en arrière, ils ont réussi à les convertir ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit, OK, ça va pas être le match qu'on pouvait s'attendre. Ça va pas être un blowout. Ça va pas être Notre-Dame qui décide leur pilier d'en face. Là. Notre-Dame, présentement, sont en mode un peu panique. Ils sont pas en mode solution. Là. Ils se sont pas dit, on va punter, on va les refouler dans leur territoire pour on va faire confiance à notre défensive. Ils craignaient l'offensive de Dukes. Ils craignaient Riley Leonard à ce moment-là, qui a eu des bons flashs, somme toute, pendant le match. A réussi à convertir des troisième essais quand même assez importants, autant avec ses jambes qu'avec la passe. À la fin de la journée, comme je disais, la défensive a manqué de jus pour une minute du match, pour deux jeux dans le match. Ils ont manqué de jus, puis ça leur a coûté la game. Malheureusement, après ce score-là de Notre-Dame, il restait quelques secondes au tableau. Les Blue Devils ont voulu redraver le terrain pour aller scorer. Et Leonard, il s'est... J'ai pas le résultat, j'ai pas vu c'était quoi exactement qu'il y avait. Je sais pas si toi, t'en as entendu parler, mais... Il s'est comme twisté une cheville de façon assez impressionnante là, puis je sais pas s'il y a une fracture ou tu sais, j'ai pas eu la conclusion de tout ça pour Leonard là, fait que c'est vraiment ça pourrait vraiment être dramatique pour la saison de Dukes là, parce que c'est vraiment lui qui porte ça sur ses épaules depuis le début de la saison. On a les tabarnakos dans le chat qui dit bon live les mecs, merci beaucoup Seb, c'est bien apprécié, merci d'être passé. Puis Brochu qui est lui pour répondre à ta question de tantôt qui dit qu'il a mis une shutdown defense, mais c'est toujours plaisant de voir des offensives exceptionnelles, surtout au niveau universitaire. Effectivement, on écoute ça au niveau universitaire pour les games de 50 points. Wallet en rafale, il y a quelques matchs qui ont quand même été intéressants, mais juste pour des faits d'armes à ce niveau-là. Mizzou 38 contre Vanderbilt 21. Mizzou 23e au pays. Ils se sont poussés avec la victoire. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus?
Ouais, mais écoute, ce que je voulais parler, c'est que Mizzou, on n'en parle pas beaucoup. Là. Les Tigers de Missouri, sans faire trop de bruit, ils font de belles choses. Sont 5-0. Cette semaine, ils reçoivent à la maison les Tigers de LSU. Donc, ça va être un gros match pour eux. Puis, un gars qu'on parle vraiment pas. Puis, on le dit souvent, on a notre segment qu'on dit hey, si ce gars-là jouait pour une autre équipe avec un autre uniforme. Brady Cook, leur corps arrière, approche les 1500 verges, 11 touchés en seulement 5 matchs. Dans cette victoire-là contre Vanderbilt, il lance pour plus de 400 verges, 4 majeurs. On parlerait de lui s'il était le QB d'Alabama avec ses stats-là. Sans aucun doute. L'autre match que je vais parler rapidement, Faf, ouais. C'était juste pour parler d'un joueur, c'est Kentucky, qui était non classé. Rapporte leur match 33-14 contre Florida, qui eux étaient 22e au pays. Ray Davis, le porteur de ballon, court pour 280 verges, puis 3 TDs. 3 touchés. Donc, la majorité de ses verges ont été accumulées pour lui en première demi, ce qui est assez exceptionnel.
Yes. On va continuer ça avec le segment Out of the Box. À cette heure qu'on est au tiers de la saison, on a des comptes à rendre, on a des choses à dire. Yes, donc pour le segment Out of the Box, comme je disais à l'entrée de podcast, le mois de septembre est maintenant terminé. On est rendu au tiers de la saison régulière et on va prendre le temps de faire un petit compte-rendu du premier mois d'activité, premier mois et demi, si on compte la fin de août, dans la Ligue. Donc, l'équipe qui nous surprend le plus depuis le début de la saison, Wallet, je vais te laisser y aller avec ton choix parce que c'est un choix qui est fort intéressant. Parle-moi de l'équipe qui te surprend le plus depuis le début de la saison.
Ben écoute, ça aurait été facile de prendre une équipe qui est dans le top 10, qui est invaincue. Mais est-ce qu'on voit Duke, qui pourrait s'imaginer ça? C'est une équipe qui, premièrement, ne sont pas bons au football en temps normal. C'est vraiment une école de basketball. Puis oui, ils ont des bons moments ici et là avec des fois des saisons de 7 ou 8 victoires. Mais là, avant leur match contre Notre Dame, ils étaient 4-0. Ils ont très, très bien fait contre le Fighting Irish. Ils sont maintenant 4-1. Puis je pense que ça ne sera pas une proie facile là, dans la ACC. C'est une équipe qui peut rivaliser avec North Carolina, une équipe qui peut rivaliser avec Miami. Puis je pense qu'ils peuvent même rivaliser avec Florida State. Donc, une équipe à prendre au sérieux. Je ne serais pas surpris qu'ils soient dans le championnat de la ACC en fin de l'année. Est-ce qu'ils vont faire les séries? J'en doute. Mais c'est toujours le fun de voir des universités qui n'ont pas beaucoup de succès à avoir du succès là, au football. Puis ce qui me fait penser un peu au fait que c'est passé vraiment sous le radar, mais la semaine dernière, Texas, qui était 4-0, affrontait Kansas, qui était 4-0, puis on n'en parle pas. Après juste une bonne saison l'an dernier de Kansas, là, on se rappellera, Kansas, depuis 20 ans, c'était une risée dans le college football, puis ils sont 4-1, ils sont à 2 victoires d'un bowl, puis c'est une équipe qui, comme que je viens de dire, qui ne sont pas reconnus pour être excellents au football. Donc, est-ce que Duke va tomber un peu dans cette équation-là l'an prochain? Ils vont avoir tellement une bonne saison 2023 qu'en 2024, on va dire « Ah, ils sont rendus à 4 victoires, aucune défaite, ils affrontent Clemson, puis il n'y a personne qui en parle.
» Effectivement. Moi, si je vais avec ma surprise qui vient d'un match de la semaine passée qu'on n'a pas non plus parlé, mais je vais vous parler des Wildcats du Kentucky, en fait, une équipe de la SEC East qui ont toujours joué dans une grosse division, une grosse conférence, pardon, qui est celle de la SEC. Donc, on a souvent passé sous le radar, on a souvent affronté des grosses équipes, se sont fait crisser des dégelés. On va en parler un peu plus tard, mais leur victoire de la semaine passée contre Florida, qui eux sortaient d'une grosse victoire la semaine précédente, là, au final, ils ont gagné contre Kentucky 2 semaines précédentes, donc ça a été une grosse surprise pour eux. Donc Florida était quand même en selle pour quelque chose de bien. Et les Wildcats ont réussi à les upset. C'est un début de saison qui a été facile pour eux. Je suis pas sûr que ça va terminer comme ça d'ici la fin de la saison, mais le fait qu'ils soient 20e au pays, le fait qu'ils présentement soient devant Tennessee, devant Missouri, justement, qu'on disait tantôt, on parle pas beaucoup de Missouri, ça veut quand même dire que les Wildcats ont fait quelque chose de bien. Hâte de voir là, dans leur match contre le restant de la SEC qui vont affronter Georgia la semaine prochaine. On va en parler plus tard. Bama un peu plus loin vers la fin de la saison. Par contre, à date, c'est quand même un logo que, à chaque année, je me disais, j'avais jamais, il venait de quelle conférence, là, historiquement, dans mon apprentissage de la NCAA. Chaque fois, j'étais comme, c'est qui, là, cette équipe-là, là, qui vient sûrement d'un Group of Five, là, puis d'un ST Mountain West, je sais pas trop quelle division perdue du fin fond du cul. Mais non, c'est du monde de la SEC, puis là, mais cette année, ils sont 5-0 pour le moment. Donc, 20e au pays. On ne sait pas où est-ce que ça va se rendre d'ici la fin de la saison, mais bien hâte de voir qu'est-ce qui va en sortir. Pardon. Si on voit en contrepartie le penchant de l'équipe qui nous surprend le plus, évidemment, on a l'équipe qui nous déçoit le plus. Pendant que Mathieu nous dit dans le chat, c'est qui sa surprise depuis le début de l'année. Toi, ta déception, Wallet, cette année, ça serait qui et pourquoi?
Ben écoute, ma déception, ça pourrait être la Big 12 en général. On s'en rappellera quand on faisait nos podcasts pré-saison, on nous disait la Big 12. On se disait, ça va être une conférence qui va être le fun à suivre. Puis je pense qu'elle va être le fun à suivre dans quelques années, mais les additions de Houston, BYU, UCF, Cincinnati jusqu'à date, c'est comme, c'est pas hyper excitant. Mais vraiment, l'équipe qui me déçoit le plus, c'est TCU. Son 3 victoires, 2 défaites. Il faut se rappeler, l'an dernier, c'est une équipe qui a fait le championnat national. Oui, ils ont perdu de façon assez humiliante, mais ils avaient remporté quand même tous leurs matchs en saison régulière avant de perdre contre Kansas State en finale de la Big 12. On dirait que leur offensive aérienne, elle ne connecte pas tellement. Le jeu au sol, c'est... Mais, je ne sais pas quoi dire. On dirait que la magie de Sonny Dyke, leur instructeur-chef, est un peu disparue. Puis, c'est pas comme si je les voyais comme une équipe qui pourrait être au sommet puis rivaliser encore pour une place en série. Mais on disait tellement de bonnes choses. On disait, on a perdu notre corps arrière partant, on a perdu un bon receveur, mais Chandler Morris était censé être notre corps arrière en 2022. Puis, jusqu'à maintenant, il est bon, mais il fait rien d'exceptionnel. Puis, TCU, c'est une équipe qui me déçoit, malheureusement.
Je peux comprendre, c'est vrai que suivant avec leur run de l'année passée, on aurait pu s'attendre à plus. Au niveau de ma déception, je ne vais pas te faire de peine, c'est un peu gros puis c'est un peu big picture, mais LSU ouais, me déçoit. 100%. 3-2 présentement, tu l'as dit, leur offensive était optionnelle en fait. J'ai ressorti pour le besoin de l'exercice, c'est un peu le top 25 qu'on avait au début de l'année, qu'on avait comparé les top 25 de tous les grands sites à Potin. LSU, avec la loi de la moyenne, était 6e au pays, alors qu'il était 16e dans le final de l'année passée. Donc même les médias, au début de la saison, hypaient beaucoup LSU. Le plus haut ranking qu'il y avait, c'était même 4e au pays. Donc il y avait Sport Illustrated qui mettait dans le top 4 pour avoir une run au College Football Playoff. Les seuls qui étaient un peu plus réservés, c'était Fox Sports qui mettait 14e au pays. Donc, ils voyaient qu'il y avait peut-être des lacunes au niveau de LSU. Je me souviens à l'époque, tu avais dit Fox Sports peuvent bien me manger le donc force est d'admettre peut-être que Fox Sports ont peut-être un peu raison à ce niveau-là, au niveau de la déception. On avait beaucoup d'aspirations pour LSU. On avait beaucoup. On s'attendait à beaucoup plus à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment décevant de les voir performer de cette façon-là. Parler des résultats. Les résultats, pardon, parlent de eux-mêmes. Là, je veux dire, on n'invente rien rendu là. On avait des grosses aspirations et on a été déçus. Juste prendre le temps de mentionner l'équipe qui surprend le plus, Mathieu, qui est dans le chat présentement, c'est les Terps de Maryland, donc les Terrapines de Maryland, qui, à date, ont connu un très bon début de saison. Défensivement, sont assez dominants avec peu de points accordés par match. Leur plus grosse dégelée était contre Charlotte. Ben, pas dégelée, mais plus de points accordés contre Charlotte, qui était 20 points. Je suis d'accord avec ce que tu dis, je comprends. Je les avais pas laissés pour compte, très honnêtement. Par contre, j'ai hâte de voir ça va être quoi leur le premier tiers de saison était facile pour eux. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là, dans le milieu de la saison qui s'en vient. Ça va être un peu plus
ça commence
avec
là,
Ohio State, Illinois, puis c'est ça, Northwestern. Pour finir ça là, avec Penn State avant la run de fin de saison. Donc, effectivement, depuis le début, ils sont bons, sont bien, 5-0. Ils n'ont pas encore eu leur place, je pense, dans le top 25 pour le moment. Mais je pense que le manque d'adversité peut peut-être laisser le AP poll un petit peu, influencer le AP poll à ce niveau-là. Un joueur qui surprend le plus, si on va avec ton joueur qui surprend le plus, voilà, depuis le début de la saison, ça serait qui et pourquoi?
Ben, je suis obligé d'être avec un gros nom, mais c'est Quinn Ewers, le corps arrière de Texas. On avait vu de belles choses de sa part l'an dernier, mais on avait aussi vu des moments un peu plus difficiles. Puis, j'ai forcé d'admettre que depuis le début de l'année, il est juste en mesure de faire tout sur le terrain. Que ce soit au niveau de son bras ou au niveau de ses jambes. 1358 verges aériennes, 10 touchés par les airs. Tu rajoutes à ça 5 touchés au sol. Le gars fait en sorte que les défensives adverses jouent un peu sur leurs talons. Puis je pense que c'est la raison pourquoi Texas sont aussi dominants. Puis c'est une des raisons pourquoi je pense que Texas is back, finally. Puis une chose qu'il faut lui donner aussi à Quinn Ewers, c'est le fait que il y a un gars derrière lui qui a son nom de famille, c'est Manning. Puis il sait que une mauvaise sortie, deux mauvaises sorties, les fans, les boosters à Texas vont se mettre à scander le nom de Manning. On veut voir Archie, on veut voir Archie, on veut plus que ce soit Quinn Ewers. Puis Quinn Ewers, il fait shut down, il livre la marchandise, mm-hmm. puis les critiques peuvent pas le critiquer. Puis je pense que c'est tout à son honneur. C'est un gars qui me surprend sous la pression du Texas.
Yes. Moi, mon joueur qui me surprend le plus, tu sais que j'aime beaucoup regarder les QB. J'aime beaucoup regarder les QB qui arrivent un peu de n'importe où. J'en ai parlé la semaine passée, puis je vais le répéter parce que je pense qu'il faut qu'on parle plus de lui. Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas un casse rouge avec un A dessus, donc, et on parle moins de lui, mais c'est évidemment Cam Ward, le corps arrière de Cameron Ward, en fait, le corps arrière de Wazoo, justement, Washington State. 106 en 142, il y a un taux de complétion pardon, de 75%. En comparatif, tu viens de nommer Quinn Ewers, il est à 66%. A lancé pour 1390 verges, juste devant Ewers, qui est à 1359. A lancé 13 passes de toucher. Ewers est à 10 de ce niveau, à ce niveau-là. A lancé aucune interception, donc aucun larcin lancé comparativement à Ewers qui est à 1. Puis, je m'explique encore mal pourquoi Ewers est dans les discussions pour être dans un Heisman Watch alors que Cameron Ward n'est même pas considéré. Avec un taux de complétion de 75%, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'il y a 3 passes sur 4 qui sont attrapées pour des gains positifs. Il y a un average de 9,5 verges par jeu. C'est exceptionnel. C'est phénoménal, en fait, très honnêtement, au niveau des statistiquement parlant pour ce QB-là. En plus de ça, court quand même assez allègrement quand il y en a de besoin, réussir à aller chercher des premiers jeux, même trois courses là, pour des touchés depuis le début de la saison. Donc Cameron Ward, c'est un joueur qui au début de l'année, j'en avais pas entendu parler, je m'étais pas intéressé à lui de proche ou de loin, puis force est d'admettre que pour un gars junior, je vais devoir porter un peu plus d'attention à lui, surtout s'il décide de se déclarer pour le draft de cette année. On va faire un petit peu plus de tape à ce niveau-là. Si on va en contrepartie du joueur qui nous surprend le plus, si on y va avec le joueur qui nous déçoit le plus, Wallet, qu'est-ce que tu as à me raconter sur qui? Contre qui tu veux me parler?
Ouais, mais c'est ça. Tantôt, il y avait Mathieu Gagnon-Plouf dans le chat qui demandait « Il se passe quoi avec Perkins? » Ben, c'est ma déception. C'est le joueur qui en termes de statistiques, l'an dernier, Errol Perkins n'était pas exceptionnel, mais sa présence sur le terrain, c'était lui qui faisait en sorte que les offensives adverses, on se tournait vers lui, puis ça l'ouvrait le jeu pour d'autres joueurs. Puis une fois de temps en temps, boum, il sortait un gros sac, puis ça changeait l'allure d'un match. Cette année, on le voit pas pantoute sur le terrain, puis c'est vraiment un désavantage pour LSU. Je pense que leur défensive, je le savais qu'elle était pour être mauvaise, puis tu en as parlé tantôt, au niveau de leur tertiaire, mais non seulement mauvaise au niveau de leur tertiaire, leur front seven n'est pas exceptionnel non plus. Est-ce que ça peut changer potentiellement? Il y a beaucoup de joueurs qui sont revenus de l'an dernier, mais jusqu'à présent, il n'y a rien qui se passe, puis je suis obligé d'y aller avec Errol Perkins.
Je peux comprendre les raisons derrière ça. Si j'y vais au niveau de... faut juste que je retrouve ces statistiques. Oh non, j'y trouve pas. Bon, en fait, ma déception depuis le début de la saison, c'est le QB de North Carolina. J'en avais parlé au début de la saison, mais Drake May, pardon, c'est ça, je l'ai trouvé, Drake May. Donc, depuis le début de la saison, on se fiait à ce que... Ben, au début de la saison, moi, j'ai dit que je m'attendais à ce qu'il produise plus, que ce soit lui qui porte cette équipe-là sur ses épaules. Malheureusement, présentement, les statistiques sont un petit peu trompeuses, mais là où il faut vraiment porter attention, c'est oui, il a complété 72% de ses passes, puis tantôt, j'ai dit que 75%, c'était exceptionnel. Oui, il a lancé pour 1200 verges jusqu'à date, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il a lancé seulement 5 passes de toucher, pardon, et il a lancé 4 interceptions. Donc, il est quasiment à 50% au niveau des passes de toucher versus les interceptions. Donc, Drake May, s'il va être considéré dans la course au Heisman, je pense qu'il est déjà un petit peu trop tard à ce niveau-ci, mais surtout s'il va être capable de faire gagner son équipe de façon plus convaincante, vous allez me dire, oui, mais Faf, ils sont 4-0 pour l'instant, qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux des victoires plus convaincantes. Je veux être capable d'avoir plus de choses à mettre sous la dent. Tu peux pas gagner en deuxième overtime contre Appalachian State puis espérer te rendre dans un... dominer en fait en fin de saison ou te rendre dans un bowl. Ils ont déjà 4 victoires, sont déjà en bonne position. Probablement qu'ils vont finir avec 6 victoires. Probablement qu'ils vont se mettre dans un bowl. Par contre, j'aurais attendu plus de Drake May pour être capable qu'il soit plus surprenant, qu'il soit capable de mettre plus de points au tableau directement de lui. Donc, t'es un petit peu passe sous silence présentement tout ce qui est au niveau du Heisman Watch. Je m'attendais à plus de lui. Je l'avais même mis dans un, je pense, mon Heisman Winner cette année. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un QB soit capable de gagner 2 années de suite à ce niveau-là. Donc, c'est lui que j'avais mis. Donc, bref, c'est lui que, pour l'instant, me déçoit le plus. Si on y va avec le coach qui est sur un hot seat, donc le tiers de la saison est passé, des coachs qui gagnent moins, des coachs qui gagnent mais qu'on s'en attendait, des coachs qui perdent mais qu'on s'en attendait pas, ou des coachs qui sont beaucoup trop payés pour ce qu'ils sont en train de faire présentement. Effectivement, Mathieu, il résume bien. On parle plus de la défensive de North Carolina que des performances de Drake May qui risquent fort de... probablement, pardon, de retourner pour une année de plus. Ça, c'est vrai. Fait que rendu là, s'il se déclare pas pour cette année, en sachant qu'il ne sera pas en première ronde, il va se déclarer pour une année de plus. Les performances qui me mettent sous la dent me rassasient pas à ce niveau-là. Donc, pour revenir aux coachs, qui sont sur le hot seat, ça serait qui, toi, Wallet, que d'ici la fin de la saison, c'est plus rare dans la NCAA qu'on met des coachs pendant la saison. Là. On attend le Black Friday pour faire ça. Ouais. Mais... est-ce que tu en as un que tu vois sur le hot seat, là, voir qui pourrait perdre sa job là, rapidement?
Ben écoute, c'est un sujet un peu touché, le nom que j'ai mis ici, mais je pense que je suis obligé d'y aller avec Zach Harnett, l'instructeur de Mississippi State. On se rappellera. Coach, j'aime pas ça quand j'ai des blancs de mémoire et que je sais le nom, là, mais quand Mike Leach est décédé en décembre dernier, Zach Harnett était le coordinateur défensif. On l'a promu au poste d'instructeur-chef. Puis, jusqu'à présent, ça fait très pitié au niveau de Mississippi State. Leur défensive n'est pas bonne. Puis non seulement ça, il y avait relativement le même noyau offensif. Puis, l'offensive, il n'y a rien qui se passe. Will Rogers, qui avait connu des saisons exceptionnelles avant, sous la barre de Mike Leach, et un corps arrière qui... pédestrien qui fait rien, un touriste. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Peut-être qu'on va dire à Zach Harnett, on va aller chercher un autre coach, puis on te remet coordinateur défensif. C'est peut-être un peu over your head. C'est trop pour toi de le poste d'instructeur-chef. C'est dans une situation qui est triste, mais Zach Harnett qui est pas fermé depuis le début de l'année. Là.
Yes. Moi, mon coach qui est sur le hot seat, c'est quelqu'un qui passe un peu sous le radar parce qu'il fait bien depuis le début de sa carrière, mais il fait rien d'exceptionnel. Je veux parler de Jimbo Fisher. Jimbo Fisher, c'est le coach qui est présentement à la tête de Texas A&M. Depuis, je pense qu'au début de podcast, on en parlait, je te demandais, il a déjà gagné un National Championship. T'es comme moi, en 2010, il a gagné genre avec Florida. En 2012, il a gagné genre avec Florida State. Mais son record, il est juste genre, il joue 42-21. Il a juste deux fois plus de victoires que de défaites. Par contre, cette année, il est 3-1, là, je pense. Là. Il est 4-1, en fait, avec la victoire qu'il a eue la semaine passée. Donc, il a juste perdu contre Miami. Il a perdu contre Miami. Il est 4-1 présentement. Il a fini par battre Arkansas. Le fait de battre Auburn, ça lui a fait du bien. Mais le problème qu'il y a, là, c'est qu'il gagne un hostie de gros salaire présentement, Jimbo Fisher. Puis, pour le salaire qu'il est payé, pour les attentes qu'on avait de lui, les expectations en bon français... ben, il vit pas à la hauteur des standards qu'on s'attendait de lui. Le mieux qu'il a fait, c'est en 2020, il a fini quatrième au pays pour se classer dans le college football playoff, mais il n'a rien réussi à faire. Donc, c'est la meilleure saison qu'il a eu à date dans sa carrière à Texas A&M. Fait que ma question, c'est combien de temps ça va prendre avant que Texas A&M perde patience? Combien de temps ça va prendre avant que Texas A&M disent, ben, pour le montant qu'on te paye, on va aller en chercher un qu'on va payer la moitié de ça, puis qui va avoir exactement les mêmes résultats que toi. Donc, qui va se classer pour un bowl année après année, mais qui ne se classera pas pour le college football playoff. On rentre dans on rentre là, dans une période de grâce, là, je pourrais appeler. Là, donc, c'est vraiment pas la fin, mais je veux dire, comme faut falloir que ça commence à être mieux que ça, sinon ça va sonner la fin pour lui, évidemment. Voilà, si je te lance la question, le meilleur match du mois de septembre, c'est quoi le meilleur match que tu as vu de tes propres yeux pendant le mois de septembre? Donc, en rétroaction, là, quel match tu as vu et tu dis, waouh, ça c'est incroyable, je ne peux pas croire que j'ai vu ce match.
Écoute, ça aurait été facile aussi de dire ah, je vais y aller avec LSU contre Ole Miss parce que c'était assez divertissant. Là. Tu mets le cerveau à off, les défensives sont pas là, puis tu as des points, puis les joueurs offensifs qui étaient assez explosifs. Mais je suis obligé de me résigner, je suis obligé d'aller avec un autre match. Je pense que Florida State contre Clemson, la semaine dernière, le 23 de septembre dernier, était tout simplement incroyable. C'est un match comme que j'ai expliqué la semaine dernière que je n'ai pas été en mesure d'écouter en live, mais une fois que je l'ai écouté en condensé, c'était vraiment bon. Je pense que Clemson nous a montré que non, ils sont plus dominants, mais c'est encore une équipe qui peut rivaliser, qui peut créer des surprises. Puis Florida State sont vraiment au sommet de la conférence maintenant. Un changement d'air là, qui fait du bien, un peu, je pense, pour tout le monde. Puis c'est mon match de l'année jusqu'à présent.
All right. Moi, mon match de l'année, je vais être obligé d'y aller avec le match de Oregon contre Colorado. Donc, Oregon qui ont scoré 42 points en face à Colorado, qui leur a apporté seulement 6 points. Ça a été le match que il a fait du bien à tout le monde. Puis pourquoi je prends ce match-là, c'est pour expliquer un petit peu d'autres choses que j'ai dit précédemment. Donc, ce match-là a juste ramené les choses à la hauteur de ce qu'elles étaient vraiment. Colorado, sont-ils une bonne équipe? Oui. Sont-ils une mauvaise équipe? Non. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que dès le moment où ils ont gagné leur premier match, j'ai dit, faut se garder un peu de composure là-dessus. Il faut rester calme avec ça. C'est pas ce qui va dicter cette équipe-là. Ils étaient rendus 3-0. On les pensait imbattables. On pensait qu'ils allaient tout péter tout au long de la saison. Fait que là, Oregon ont juste remis les pendules à l'heure. C'est coach prime time à ce moment-là. Donc, on remis les pendules à l'heure. On juste dit, c'est correct. Ils vont peut-être avoir 6 victoires d'ici la fin de la saison. Ils vont peut-être se classer pour un bowl. Puis tu sais quoi? C'est bon pour leur programme. C'est correct pour leur programme. Sauf que là, c'est pas eux autres les plus gros dogs dans le pound. Il va falloir qu'on se calme avec ça. Donc, j'ai adoré ce match-là parce que, évidemment, Oregon étant mes anciennes amours, les voir pas chier dans la pelle dans un match où on aurait pu s'attendre à un upset puis qu'on aurait tout dit « Ah ben oui, les Ducks ont encore chié dans la peine. On s'en attendait dessus. » Ben non, Bo Nix a gardé ça tight. Bo Nix a gardé ça efficace. Aurait été capable d'être la bougie d'allumage pour les Ducks. Donc, c'est le match que j'ai le plus préféré là-dedans. Et là où je veux dire que je veux en revenir avec les deux premiers points, ben je veux pas parler que le Colorado, c'est l'équipe qui me surprend le plus présentement parce que malgré tout, on s'attendait à ce qu'il y ait un changement de dynamique au niveau des Buffaloes, puis ça, c'est en train de s'orchestrer. On pouvait pas s'attendre puis partir en couille puis se dire que ça allait être la meilleure équipe de la saison. Malgré le fait qu'ils viennent de subir deux défaites consécutives, je pars pas non plus en peur en disant qu'ils me déçoivent puis en disant qu'ils sont plus bons à rien. Il y a eu des bons flashs à des endroits où on s'attendait pas à ce qu'il y ait des bons flashs. Ils ont été capables de courir pour 200 verges. Ils ont été capables de défensivement quand même stuffer USC en deuxième moitié du match. Donc, j'aime voir que cette équipe-là, quand certaines unités fonctionnent bien, puis c'est pas toujours les mêmes qui fonctionnent bien. Ça donne des résultats qui sont différents ou des résultats qui sont efficaces. On s'entend, il y a deux semaines, contre Oregon, c'était, il n'y avait rien qui fonctionnait bien, puis c'était correct, c'était un reset. La semaine passée, on a vu des belles choses, de nouvelles unités, de nouveaux joueurs qui vont nous permettre de dire, est-ce que tout le monde, s'ils sont capables de jouer sur un même niveau, va nous amener à être une équipe 6-6, vont nous amener à être une équipe 7-6 peut-être, puis on va se classer pour un bowl. Je leur souhaite très honnêtement, mais autant je ne pars pas en peur pour dire que c'est la meilleure équipe au pays, autant je ne pars pas en peur pour dire que c'est des espèces de pourriture qui n'ont plus rien à faire rendu là. Je pense que c'est un apprentissage, je pense que c'est un plan triennal rendu là. Dans 3 ans, peut-être qu'on va avoir réussi à builder quelque chose là-bas. Je pense que Coach Frank fait un bon travail, somme toute, on and off the field, mais il faut juste se donner un temps à ce niveau-là. Donc, mon match du mois de septembre, c'est le suivant parce que ça l'a permis de remettre les pendules à l'heure pour Colorado. Ça a été long pour ça. Bref, en prévision du mois d'octobre, c'est quoi le match qui t'intrigue le plus dans les 4 prochaines semaines, Wallet?
Je te laisse en premier, Faf. Il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs, mais j'ai pas trouvé un match Le match qui m'aurait intéressé, là, quand j'ai vu cette question-là, là, j'ai dit bon, mais qu'est-ce que dans les 4 prochaines semaines pourrait concrétiser le fait? Parce que pour ceux qui nous suivent, qui nous écoutent en live ou qui nous écoutent en audio, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque semaine, sur la page Twitter/X de Triple Option, on émet notre top 12 de la saison. On émet notre top 12, puis on l'envoie de façon individuelle à Wallet. Wallet compile les résultats, puis il pond son top 12, le top 12 de Triple Option, qui consiste du comité de moi, Wallet, Dion et Steph Cadoret. Donc, Cadorette?
Cadoret.
Je sais pas, on a passé la soirée la semaine passée avec lui, on n'a jamais demandé. Mais bref, tout ça pour dire que dans les matchs, moi, dans ce top-là, présentement, je mets Michigan top 1. Puis je mets Ohio State top 2, puis je mets Georgia plus bas encore parce que les performances de Georgia me déçoivent. Puis semaine après semaine, je mets Michigan. Puis semaine après semaine, Michigan, ça ramasse genre 4e, 5e du top 12. Puis là, je vous ai posé la question en grand groupe en disant « Les boys, c'est qui chienne Michigan? C'est quoi votre petit problème avec Michigan? » Vous allez me voir, ça sera pas long, là, je m'en viens là, à la réponse à la question. Donc, ce qui me déçoit avec Michigan, ce qui m'impressionne avec Michigan, c'est les résultats qu'ils ont, l'efficacité qu'ils ont, autant offensivement que défensivement. Ils scorent minimum 30 points par match, on accorde pas plus que 7 par match. Puis là, Wallet, en bon chienneux de vache de Chris, est arrivé et il a dit « Ouais, mais ils n'ont pas d'opposition, ils n'ont rien à faire, il se passera rien. » Puis bon, fait que là, j'ai comme compris que quand tu m'as dit « Ça va être quoi le match que tu t'attends le plus? » Je me suis dit « Ah, mais attends, je vais aller voir le calendrier du mois d'octobre de Michigan. Je vais attendre de voir un gros match contre une grosse équipe qui va faire en sorte que ça va solidifier leur position dans ma tête et dans mon cœur de top 1 au pays. » Et au mois d'octobre, ils affrontent Minnesota unranked, Indiana unranked, Michigan State unranked. Oui, c'est un chat, c'est une rivalité, mais encore. Et début du mois de novembre, on va affronter Purdue. Donc, on va attendre juste au milieu du mois de novembre pour voir un affrontement contre Penn State qui va être leur vrai premier et seul test, leur vrai premier test de la saison. Donc, ça m'a fait chier de voir que cet horaire-là était de même parce que tu l'as dit depuis le début de la saison, on tape sur la tête de Georgia en disant qu'ils ont eu un horaire de pénis, mais en réalité, Michigan a un horaire encore plus facile qu'eux autres. Présentement, ils sont top 2 au pays, puis personne ne s'attend à rien d'eux autres. Donc, il a fallu que je me rabatte quand même sur un match du 21 octobre et je vais te parler du match de Duke contre Florida State. Parce que Florida State, depuis le début de la saison, on se dit qu'ils sont real, on se dit que ça marche leur affaire, mais là, ils se sont laissés scorer 29 points il y a 2 semaines contre Boston College. Ça a commencé à être cheeky. Ils ont failli l'échapper contre Clemson. Là, ils vont avoir quand même des 2 prochaines semaines faciles contre Virginia Tech puis Syracuse. Puis là, ils vont affronter Duke. Puis là, on a vu Duke. Puis là, c'est pour ça que ça m'a fait chier. Tantôt, j'ai parlé de Leonard parce que j'ai peur qu'il soit blessé et qu'il soit pas revenu, mettons, contre Florida State pour leur donner un vrai challenge. Mais je pense que là, ça va être le vrai gros challenge de la saison de Florida State. Oui, ils ont pliné en face de LSU là, à la semaine 1, mais on l'a dit tantôt, on ne pense pas que la défensive de LSU est élite à date d'aujourd'hui. Donc, le vrai premier challenge qu'ils vont avoir, c'est Duke, qui ont réussi à limiter quand même Notre-Dame à un certain nombre de points. Donc, bref, le match qui m'intrigue le plus et qui s'en vient le 21 octobre, ça va être ce match-là, Duke contre Florida State. C'est à Florida State, donc ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour être capable de gagner ce match-là. S'ils arrivaient qu'à l'échapper, ça a l'air tirer dans le pied terriblement pour la fin de la saison. Donc, avec ce long préambule-là, je m'excuse, je me laisse emporter ce soir. Ton match que tu t'attends le plus au mois d'octobre, ce serait lequel et pourquoi, Wallet?
Écoute, Faf, t'as pas à t'excuser parce que j'aime ça. Je pose une question d'à peu près une quinzaine de mots, puis tu pars de la gauche vers la droite dans le champ centre. Puis, tu sais, c'était tout pertinent ce que t'as dit. Puis, t'es sorti des chantiers battus en disant un match entre Duke puis Florida State. Moi, je suis un peu moins original, mais je joue avec 2 gros matchs. Moi aussi, je vais avec un match le 21 octobre. C'est le premier gros match dans la Big Ten. On le sait, on a 3 ténors dans la Big Ten. C'est Penn State, Ohio State, Michigan. Penn State et Ohio State s'affrontent le 21 octobre. Ça n'a pas encore été annoncé, le match va être à quelle heure. Je ne serais pas surpris que ce soit un match en soirée, le 21 au soir. Puis par la suite, l'autre match qui va m'intriguer le plus, ça, c'est dans 2 semaines, le 14 octobre prochain. Oregon, que tu viens de parler en long et en large, qui se rendent à Seattle pour affronter les Huskies de Washington. Je pense que ce match-là va vraiment déterminer, va vraiment mettre une équipe numéro 1 dans la conférence. Puis on sait, la Pac-12 vont abandonner le format nord et sud. Donc, on va juste mettre les 2 meilleures équipes en finale de la conférence cette année. Donc, On va-tu avoir un rematch en décembre? Potentiellement. Mais l'équipe qui va gagner ce match-là va vraiment prendre une ampleur sérieuse là, au championnat de la conférence à la mi-octobre.
Yes. All right. Donc, ça fait le tour pour le segment Out of the Box. On avait quand même beaucoup de matériel à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas à merci des commentaires. On a Mathieu, excuse-moi Mathieu, j'avais manqué, qui disait que pour lui, Dave Aranda de Baylor est sur le hot seat d'ici la fin de la saison. Ouais, je peux comprendre. Très bon. Je l'ai vu aussi passer à quelques reprises. On va y aller avec le segment Helmet, Stickers and Flag, à qui on a de l'amour à donner et petite tape sur le chapeau à donner. Pour l'occasion de la petite tape sur le chapeau, je vais mettre le fight song de LSU. Yes, donc Helmet, Sticker and Flag la semaine, à qui on veut donner un props, à qui on veut donner une petite tape sur le chapeau, comme je disais tantôt. Je vais commencer avec mon sticker de la semaine parce que c'est un gars que j'avais pas vu courir depuis le début de la saison, mais en regardant les highlights de ce match-là, j'ai fait comme « Who the fuck is that guy? » Et je veux parler du running back Ray Davis de Kentucky qui, j'ai dit précédemment, là, on réussit à gagner ça la semaine passée contre Florida. Il a connu tout un match avec 280 verges, 3 touchés en 26 portées justement contre les Gators. Ça porte son total pour l'année à 594 verges pour 8 touchés au total. Il y a une moyenne de 7,8 verges par course. Donc, je l'avais jamais vu, je l'avais jamais entendu parler. Ray Davis, c'est un gars senior qui va probablement être tout déjà pété pour se rendre dans la NFL l'année prochaine, puis il va avoir les genoux tout cassés. Mais ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, vous savez quand vient le temps des repêchages, j'adore les porteurs de ballon qui sont costauds, pas nécessairement très grands, mais qui peuvent être très costauds parce que je sais qu'ils sont capables de prendre des hits. Et à la fin de la journée, ben Ray Davis, 5 pieds 10, 216 livres en fait. L'année passée, a connu une solide saison avec 1000 verges par la course. Là, on est au un tiers de la saison puis il est déjà rendu à 500 verges. Donc, il est on pace pour se rendre loin. La seule chose, c'est que l'année passée, il a porté le ballon 232 fois. Avec les 76 fois de cette année, ça fait déjà plus de 300 fois qu'il porte la balle en moins d'un 2 ans. Donc, d'après moi, il va avoir mal aux genoux à la fin de la saison. Mais bref, le mon sticker de la semaine, c'est à Ray Davis, le running back de Kentucky. De ton côté, ton sticker de la semaine, Wallet, à qui et pourquoi?
Écoute, t'en as parlé en long et en large, pardon, lorsque t'as fait le résumé du match entre Duke et Notre Dame. Je suis obligé d'y aller avec le Fighting Irish de Notre Dame, coach Marcus Freeman, puis Sam Hartman. Sam Hartman qui vraiment met l'équipe sur ses épaules en toute fin de match. Je traverse le terrain, il prend des bonnes décisions. Tu vois que le gars est mature, le gars, je me trompe pas, a 23 ans, il est à sa cinquième saison au college football. Il lit bien le jeu. Notre-Dame a une bonne défensive. Notre-Dame, c'est une équipe à prendre au sérieux cette année. Je ne serais pas surpris qu'avec qu'est-ce qu'on voit dans la SEC, des équipes qui pourraient perdre, d'autres conférences qui sont bonnes, mais on le sait, exemple la Pac-12, la ACC, tu as des bonnes équipes au sommet, mais ça va se cannibaliser, si j'ai bien dit le mot. Il y a une chance que Notre-Dame fasse les séries, puis une fois en série, je pense que Notre-Dame, c'est une équipe qui peut rivaliser avec les plus grosses équipes au pays. Donc, chapeau à Notre-Dame encore une fois cette semaine.
Je vais bouncer sur ton flag pour Sam Hartman, parce que j'ai écouté le match jusqu'à la fin, puis...
Mon sticker, excuse-moi.
Puis Leonard, il était dans la fameuse tente bleue là, parce qu'il s'était twisté une cheville puis il était là pendant longtemps. Puis Hartman, alors qu'il était en territoire hostile, il est resté sur le terrain pendant longtemps. Il est resté proche de la tente bleue. Il attendait que Leonard y sorte pour juste aller y faire un congratulation de fin de game, un bon handshake de fin de game. Je pouvais pas passer ça sous silence, considérant que tu as des joueurs professionnels comme Tom Brady, esti qui se pousse de Ryan Fitzpatrick après une défaite contre Fitzpatrick parce que c'est un esti de poussies, alors que ce gars-là qui, oui, vient de gagner, mais prend quand même le temps d'aller s'enquérir là, de la santé de son adversaire, mais de son équivalent pardon, de l'autre équipe. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez gentilhomme de sa part. Donc, un petit sticker sur le site qui me restait dans le fond de ma poche, là, je vais y donner pour cette semaine. Si on y va avec les flags de la semaine, mon flag, quand j'ai vu le tien, je me suis senti un peu inspiré, mais j'en ai parlé tantôt. La défensive de USC qui a accordé 41 points à Colorado. Je pense pas que Colorado, c'est une mauvaise équipe. Je pense pas que Colorado, c'est une mauvaise offensive. Au contraire. Par contre, tu peux pas accorder 41 points à Colorado puis espérer aller gagner des matchs de fin de saison, aller espérer tailler une place dans le top 4. Je pense que ça peut même leur nuire à leur résumé de fin de saison pour être dans le top 4 de fin de saison. Ça peut le kicker out du top 4, même s'ils finissent sans défaite, là. Juste ce genre de performance-là défensivement, ça peut faire questionner le comité de fin de saison pour se dire « Hey, on les mettra pas là, ils vont aller se faire traverser le cul par des bonnes équipes, fait que fuck that, on les enlève du top 4. » Fait que ce genre de performance-là, pour moi, ça mérite le flag de la semaine. C'était vraiment inacceptable du côté de USC. Puis malheureusement, je sais pas s'il y a moyen à court ou moyen terme de régler ce problème-là. Je vais te laisser y aller avec ton flag de la semaine, je te passe le flambeau des défensives à chier.
Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de solution au problème parce que c'était le même problème quand Lincoln Riley était le coach à Oklahoma. Il a remporté quoi? 2-3 Heisman consécutifs avec Kyler, Baker, puis Jalen Hurts qui l'a quasiment remporté lui avec. Mais les défensives étaient horribles pour eux. Pour ce qui est mon flag de la semaine, on en a parlé en long et en large, je ne m'étirerai pas plus longtemps, mais la défensive de LSU qui, non seulement c'est le talon d'Achille de l'équipe, mais je me répète, avec une défensive moyenne, LSU serait une équipe qui pourrait aspirer au championnat national. Puis là, bon, gaspiller une offensive exceptionnelle avec une des pires défensives que j'ai vues de ma vie, malheureusement pour les Tigers.
All right. On va continuer ça avec l'horaire de la semaine pour les matchs qui s'en viennent dans la NCAA. Right, Wallet. Moi, j'ai un petit j'ai un petit stun à faire à ce niveau-là. Donc, je vais t'envoyer les questions. Je vais te laisser parler des matchs qui t'intéressent dans chacune des catégories. Puis après ça, je vais parler. Après que tu aies dit tout ce que tu as à dire sur toutes les catégories, moi, je vais parler. Donc, on va commencer avec la catégorie de si tu ne peux regarder qu'un seul match cette semaine, Wallet, quel match tu voudrais qu'on regarde et pourquoi?
Écoute, je ne surprendrai pas personne ici. Le gros match de la semaine, le seul match avec... Pas le seul match, mais oui, le seul match avec deux équipes du top 15, c'est Oklahoma, qui sont 12e au pays, qui affrontent Texas, qui eux sont 3e au pays. On le sait, c'est un match qui est joué sur un terrain neutre. Le match est joué à Dallas, dans le Cotton Bowl. Le over-under, c'est un match de 59 points. Texas est favori par 5 points. Comme j'ai dit, c'est pas une surprise, c'est le gros duel de la fin de semaine. Les Sooners d'Oklahoma se rappellent très bien de leur défaite de l'an dernier. Ils avaient perdu 49-0 contre les Longhorns, ce qui a fait très mal à leur saison. Il faut se rappeler par contre que la moitié de l'équipe était à Pital. Fait que, ça fait en sorte que je me rappelle le Dylan Gabriel, leur carrière partant était blessé. Il y avait un receveur de force aussi qui était blessé. Donc là, tu as une équipe en santé. On devrait avoir un match plus serré. Texas, depuis le début de l'année, nous ont montré qu'ils peuvent jouer contre n'importe quelles équipes. Ils sont allés battre Alabama sur la route. J'en ai parlé tantôt. Quinn Ewers fait de belles choses en défensive. Mais il faut surtout parler du fait que les deux équipes ont des bonnes défensives, mais celle de Texas a une coche de plus. Puis je pense que le fait que Texas ont la meilleure défensive va faire en sorte que Texas va remporter ce match-là par plus que 5 points. Ça va être le facteur décisif dans ce duel-là.
All right. Si on continue avec le match le plus compétitif de la semaine, donc le match qui a le plus de rivalité, qui va avoir le plus de compétition, que ça va être peut-être un des plus excitants à regarder, ça serait qui t'aurait? Pourquoi?
Je vais y aller encore une fois avec un match des Tigers de LSU. Ils ne devraient pas être classés 23e au pays. C'est une équipe qui devrait être hors du top 25 à 3 victoires, 2 défaites. Pendant que Mizzou, les Tigers de Missouri, eux, sont 5 victoires, aucune défaite. Ils sont 21 au pays. L'over-under est à 62,5. LSU est favori par 6,5 points. Je pense qu'après les fans de LSU, je peux quasiment vous garantir que les personnes qui étaient le plus tristes de voir LSU perdre étaient les fans des Tigers de Missouri parce qu'un match entre Missouri 5-0 puis LSU 4-1 aurait été tout simplement incroyable pour eux. Malheureusement, LSU se sont effondrés sur la route contre Ole Miss. Pour la première fois depuis longtemps, Missouri sont 5-0. Puis, c'est un match qui est à la maison pour eux. J'en ai parlé tantôt, leur carrière, Brady Cook, qui a un bon début de saison, va être capable d'humilier la pauvre défensive, spécialement la tertiaire de LSU. Puis du côté de LSU, j'en ai parlé, ça fait 2 ou 3 semaines, le trio de Jaden Daniels, Malik Nabers puis Brian Thomas est tout simplement ridicule. Je m'attends à beaucoup de points dans ce match-là. Je pense que le over-under de 62.5 va frapper à over. Je ne sais pas qui va gagner. J'aurais tendance à croire que LSU ont encore une certaine fierté. Mais Mizzou est à la maison, puis ça va être une des plus grosses victoires des 10 dernières années du programme si on est capable de battre LSU, qui est classé top 25 à la maison. Donc, ça risque d'être assez compétitif selon moi. Ça va être un match qui va être plus serré que le 6.5 points qu'on donne aux Tigers de LSU.
Yes, je suis pas d'accord. Bet365 va se faire aller samedi, je te le dis tout de suite. Le match le plus sous-estimé, le most underrated match de la semaine, qui, pourquoi?
Ici, je vais aller Arkansas, les Razorbacks qui sont sur la route pour affronter les Rebels de Ole Miss. Ole Miss qui sont maintenant 16e au pays. Le over-under est à 62.5. Les Rebels sont favoris par 10.5 points, donc un petit peu plus que deux possessions de ballon. Personne ne parle de Arkansas avec raison. Ils sont 2-3 depuis le début de la saison, mais ils comptent toujours sur KJ Jefferson, puis une offensive aérienne qui est capable de mettre des points au tableau. Ole Miss se remettre d'une victoire émotive contre LSU. C'est deux équipes qui sont capables de marquer des points, mais c'est aussi deux équipes qui sont capables d'en accorder beaucoup. Je m'attends à beaucoup de points, je m'attends à beaucoup de jeux aériens, je m'attends à un match qui, pas beaucoup de gens vont parler, mais lorsqu'on va regarder les faits saillants le samedi soir des meilleurs matchs de la journée, je m'attends à ce que ce soit un des matchs qu'on entende le plus parler.
Yes. Et en terminant, si on y va avec le upset alert, là, présentement, ton upset alert me fait chier royalement, mais j'aimerais que tu me parles de ton upset alert pour cette semaine. Ça serait qui et pourquoi?
Ça va être les bons vieux, ou le bon vieux Crimson Tide de Alabama, qui est 11e au pays, se rendre sur la route pour à College Station pour affronter les Aggies de Texas A&M. L'over-under est à 50 points. Alabama est favori par 3.5 points dans ce duel-là. Malgré le fait, puis ça, je vais te le donner, Faf, on se parlait il y a deux semaines, Alabama venait de jouer contre South Florida. T'étais un peu hors de toi-même, mais les choses se sont quand même replacées pour eux là, depuis deux semaines. L'étincelle qui manquait, spécialement en offensive, semble être un petit peu plus... être là, avec Jalen Monroe, c'est un petit peu... C'est un petit peu mieux. C'est pas excellent, c'est pas au standard d'Alabama, mais c'est mieux que ce qu'on avait vu. Du côté de Texas A&M, en ce qui me concerne, je pense que c'est une équipe qui est sneaky good. C'est une équipe qui pourrait surprendre d'ici la fin de la saison. À la surprise un peu de tout le monde, l'attaque semble bien rouler sous la gouverne du bon vieux routier Bobby Petrino. ils ont près de 40 points par match avec une offensive aérienne qui domine, menée par leur carrière Connor Wigman. Défensivement, c'est pas eux qui sont le plus flashy, mais je pense qu'ils ont assez de talent dans leur défensive pour stopper Alabama. Puis Texas A&M, c'est le stade du 12e homme au college football. C'est un environnement qui est très, très hostile. Puis finalement, ça fait deux fois cette année que tu peux te moquer de mon équipe qui ont des contre-performances. Mais j'aime ça ramener les pendules à l'heure. Ça va être à moi de me moquer de ton équipe dans 7 jours.
C'est bien correct. Là, tu vas me demander, mais là, Faf, depuis le début, tu me nommes pas tes équipes, tu me nommes pas de match puis toute l'équipe. Ben, en regardant les catégories, puis en regardant les matchs que tu as donnés, puis j'essaie de trouver un match que tu n'as pas parlé dans telle catégorie, puis tu n'as pas parlé dans telle catégorie, puis tu n'as pas parlé dans telle catégorie, puis qui c'est que je pourrais prendre, puis est-ce qu'il y en a assez qu'on pourrait parler, puis est-ce que je pourrais parler. Je me suis rendu compte qu'il y a un match, selon moi, cette semaine, il y a un match, qu'un seul match qui se qualifie pour toutes ces catégories-là. Donc, si tu peux regarder juste un match, si tu veux un match qui va être le plus compétitif, le plus sous-estimé en même temps, surprenamment, et avec un potentiel de upset, alert, le match que je vais te nommer, c'est Kentucky qui va rendre visite à Georgia. Un match au sommet de la SEC East. Présentement, les Bulldogs sont premiers au pays, vont recevoir chez eux les Wildcats de Kentucky qui sont 20e au pays fort de leur victoire de la semaine passée. Statistiquement parlant, les Bulldogs dominent à tous les niveaux. Malgré le fait qu'ils n'ont pas une offensive qui est super dominante, malgré le fait qu'ils n'ont pas ci et qu'ils n'ont pas ça, malgré le fait qu'ils n'ont pas une défensive aussi dominante qu'on s'attendait, ça reste quand même que c'est le match qui, selon moi, justement, il est sous-estimé parce que tu ne l'as pas nommé dans aucune de tes catégories. Donc, ça me laisse savoir que c'est un match qui est sous-estimé. Après ça, potentiel de upset. Mais depuis le début de l'année, je mets les Bulldogs sur le hot seat à chaque semaine, puis je dis, ça va se passer, il va y avoir quelque chose, ça va merder, ça va chier quelque part. Je peux pas penser que cette semaine, Kentucky vont pas être capables de dominer justement avec leur jeu au sol. On en a parlé justement avec Davis comme running back qui a 8 touchés depuis le début de la saison, donc performance assez exceptionnelle de son côté. Si Kentucky sont capables de prendre leur rythme, d'après moi, ils sont capables de peut-être... Ils sont présentement à Georgia, ils sont favoris par 14.4. Donc, c'est là que je me dis que ça va être beaucoup plus compétitif que les 14.4 points que Georgia ont d'avance. Ça va potentiellement finir en upset à ce niveau-là. Puis, au final, ben, si tu as juste un match que tu peux regarder, je pense pas qu'il est sur nos écrans, mais je vais... il est à NBC, en fait. Il est à NBC là, à 7h30. Sinon, ben, je t'amène sur notre bon vieux chum YouTube qui va pouvoir te permettre de te mettre ce match-là sous la dent. Ben, selon ESPN, là, je sais pas ce que ça... Ah, non, excuse-moi, okay. Je me suis trompé de match. Il est juste à ESPN à ce moment-là, donc ça se peut qu'il soit pas à TSN ou au Canada, malheureusement. Donc,
il y a des bonnes chances que si c'est sur ESPN, TSN Plus, 8$ par mois si ouais. Vous avez déjà TSN, ou sinon, ça vaut extrêmement la peine. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, TSN Plus vont présenter 170 matchs de college football cette année. Donc, c'est un puis un autre.
Yes, c'est assez impressionnant ce côté-là. Donc, bref, ce match-là, pour moi, se classait pour toutes les catégories. Donc, je voulais que parler de celui-ci parce que je pense que tu as bien résumé tous les autres matchs qui m'intéressaient au calendrier. Mais je pense que celui-ci, il ne faut pas le laisser pour compte. C'est un autre des matchs. Tantôt, tu disais qu'il y en avait juste un qui était en deux équipes du top 25. Il y a celui-là aussi qui était en deux équipes du top 25 en plus.
Tu as dit du top 15.
Ah, du top 15. OK, parfait. Mais... bref, à ce niveau-là, là, je pense qu'il y a un potentiel de surprise et il y a de l'intérêt de mon côté pour ce match-là. Aussi, sur nos écrans, si vous voulez voir les matchs qui sont disponibles au Canada sur nos écrans ici au Québec, vous pouvez aller voir sur notre Twitter @tripleoption3. À chaque semaine, Wallet prend le temps de faire cette liste-là puis il vous la rend disponible. On pin ce post-là. Donc, advenant le cas où samedi, tu ne sais pas ce que tu as à faire à 1h, tu dis à quel poste je pourrais bien mettre ça, qu'est-ce que je pourrais bien mettre sous là-dedans. Ben, we got your back. En rafale, très rapidement, on a un match mercredi. Donc, on a un match demain soir, Jackson State contre Middle Tennessee à TSN pour un match d'e-play intéressant, mais il est disponible à 19h30. Samedi matin, si on passe en début de journée avec Oklahoma contre Texas, Wallet vous en a parlé, pardon, on va être à ABC et TSN à partir de midi. On a parlé aussi de Maryland contre Ohio State, Ohio State, quatrième au pays, qui vont recevoir Maryland à midi aussi sur Fox. Donc, si j'avais juste un poste à regarder, je regarderais Oklahoma contre Texas, advenant le cas où je suis capable de regarder ça sur deux télés ou de swapper entre les postes assez rapidement. C'est deux matchs qui sont intéressants. En milieu de journée, à 15h30, on a sur ABC Virginia Tech contre Florida State. Peut-être un petit peu moins intéressant comme match, mais somme toute, il y a Alabama contre Texas A&M aussi sur CBS. Donc, Alabama qui va aller crisser une volée à Jimbo Fisher et ses troupes en direct du Texas. Et il y a UCF, la meilleure équipe au monde, qui va affronter Kansas à 16h sur Fox. En soirée, duel intéressant, Notre-Dame qui va rendre visite à Louisville. On n'en a pas parlé. Notre-Dame 10e au pays, Louisville 25e au pays. C'est à 19h30 sur ABC. Juste voir si Notre-Dame vont être capables de continuer en fait leur performance depuis du début de la saison là, sans avoir des victoires qui sont flashy, qui sont capables de gagner des matchs. Donc, voir si ils vont être capables de continuer ça contre Louisville. Et on a Fresno State. C'est très rare qu'on les a à la télévision contre Wyoming. Eux aussi, c'est très rare qu'on les a sur nos télévisions. Donc à Fox à 20h, si vous voulez voir du sang différent, si vous voulez voir des équipes différentes, bien, ça peut être un bon match que vous pouvez regarder sur Fox pour vous intéresser à quelque chose de différent. Et le bon vieux Pac-12 After Dark, on a Arizona qui va rendre visite à USC, 9e au pays à 22h30 sur TSN. J'ai la casquette d'Arizona justement à l'heure où on se parle dans le match. Je suis allé visiter leur stade en off-season cette année pendant le mois de... au printemps en fait, pendant le mois d'avril. Donc, un stade des facilities franchement impressionnantes pour Arizona. Donc, j'ai zé un petit peu dans mon cœur en sachant que USC ont une défensive un peu de marde. Donc, même s'ils vont rendre visite à USC, une bonne confrontation dans la Pac-12 là, à ce niveau-là, ça va être un match qui peut être intéressant. Même si USC sont favoris par 21 points, c'est facile quand tu gagnes 75 à 30 de gagner par 21 points. Donc, ça fait le tour.
Je ne sais pas qui va jouer dans ce match-là. Leur carrière, Arizona, Jaden DeLora, qui était une des bonnes recrues du dernier cycle de recrutement, pourrait potentiellement là, jouer. Puis c'est un gars qui est assez impressionnant à voir jouer. Attends, depuis le début de l'année, il a déjà joué un peu. Là. S'il est en santé, c'est un joueur qui, comme que je viens de dire, là, je me trompe un peu dans mes paroles, là, mais qui est intéressant à voir jouer et qui peut donner une bonne compétition à Caleb Williams.
Yes. Sinon, c'est Noah Fifita qui serait le QB freshman qui a pris des reps.
C'est lui, je me trompe. C'est Noah Fifita qui est la recrue comme 5 étoiles, là, qui n'a pas joué beaucoup. Je me trompe là, avec les noms, mais Fifita, c'est un peu le nom qu'on va avoir à suivre dans le futur, là, qui devrait être le futur de cette équipe.
De cette équipe-là. Ouais, Jaden Delora, c'est lui qui est aux commandes de cette équipe-là présentement. Mais Fifita, il a connu des bons flashs. Il y a eu quelques bons flashs là, depuis le début de la saison. Un tout petit QB, 5 pieds 11, 195 livres là, à peu près. Donc, ça fait le tour de l'horaire pour cette semaine. Wallet, merci beaucoup encore une fois. Yes. C'est une dynamique différente d'être en live pour se parler, se chatter, mais c'était fort intéressant de passer mes petits mardis soirs avec toi, ben relax, avec toi puis une bouteille de vin. C'est pas que je t'aime pas, mais il y a un peu des deux à ce moment-là. Les personnes dans le chat qui ont été là, qui ont été actifs, merci beaucoup Mathieu de tes commentaires, très apprécié. Yes. Bientôt un collaborateur.
C'est juste
yes, ben il va bientôt collaborer. Non, Brochy a commenté aussi quelques trucs, mais il va bientôt être notre third wheel. Ça va être lui notre troisième option de triple option. Hit me up, slide dans mes DM, Mathieu. On a un contrat pour toi. Le contrat est déjà rempli, tu as juste à le signer là, officiellement. Donc, chers auditeurs qui nous écoutent autant en vidéo présentement qu'en audio. N'hésitez pas à partager ça avec un ami qui est passionné de college football. On veut reacher le plus de monde. C'est un sujet qui est niche. C'est une langue qui est niche. Donc, c'est plus difficile pour nous. Donc, n'hésitez pas à faire rouler ça au travers de vos cercles d'amis. Jusqu'à la prochaine fois, je vais vous dire à tous, passez-vous la soie dentaire. Soyez sages. Aimez-vous. Bye-bye.